Michel Caillouette, bonjour.
Oui, bonjour Madame Paquette.
Je vous ai appelé il y a ça, bon, à peu près une semaine pour vous dire, je m'intéresse beaucoup à votre étude. Je trouve que c'est important d'en parler, mais je ne comprends rien. Et gentiment, vous avez accepté de nous vulgariser ça aujourd'hui, cette étude. Et on se disait, pour comprendre comment contrer la cécité, il faut peut-être d'abord comprendre c'est quoi la vision. Et ce que je semblais comprendre, c'est que la rétine de l'œil, c'est composé de deux éléments qui permettent qu'on puisse voir, finalement.
Oui, exactement. Alors, dans le fond de nos yeux, on a ce qu'on appelle la rétine. Alors, la rétine est une partie nerveuse de notre œil qui nous permet de détecter la lumière. Et dans la rétine, donc parmi les cellules présentes dans cette région de l'œil, on a des cellules qu'on appelle photoréceptrices. Alors, c'est des cellules qui nous permettent de détecter la lumière. Il y a deux types de ces cellules, les cônes et les bâtonnets. Alors, les cônes nous permettent de voir le jour, de voir les couleurs, ils nous permettent une haute acuité visuelle aussi, alors que les bâtonnets sont plutôt utilisés pour la vision le soir ou la nuit lorsqu'on conduit, l'intensité lumineuse est assez faible. C'est des cellules qui sont très, très sensibles à la lumière. Alors, ces deux types cellulaires qui sont présents dans nos yeux nous permettent de détecter la lumière et puis de voir, finalement.
Mm-hmm. Et quand une personne perd la vue, un handicap visuel, est-ce que c'est les cônes ou les bâtonnets qui sont affectés?
Ça dépend des conditions. Alors, il y a certaines maladies, comme par exemple la rétinite pigmentaire, qui affectent principalement les bâtonnets. Alors, ces gens-là vont voir une perte de vision, premièrement, le soir ou la nuit. C'est comme ça qu'ils vont se rendre compte souvent qu'ils sont atteints de la rétinite pigmentaire. Alors que, par exemple, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est plutôt les cellules cônes qui vont mourir. Et puis, ces cellules, puisque sont localisées dans le centre du champ visuel, donc on va voir une perte, détecter une perte de vision centrale, donc dans le centre du champ visuel, et dans ce cas-là, c'est les cônes qui dégénèrent.
Est-ce que l'on peut penser, et bien sûr, j'imagine, Michel Caillouette, que votre équipe se penche sur ce genre de problématiques-là, de solutions aussi? Est-ce qu'on peut envisager des thérapies qui pourraient venir contrer ces maladies-là?
Oui, il y a présentement toutes sortes d'avenues qui sont envisagées par les chercheurs à travers le monde. Une, entre autres, qui est très prometteur, je pense que c'est une approche qui pourrait nous permettre de guérir ces maladies, c'est ce qu'on appelle les thérapies cellulaires. Alors, pour résumer de façon très simple, la thérapie cellulaire nous utilise des cellules souches neurales. Alors, ces cellules souches, c'est un peu comme des petites cellules magiques qui peuvent générer n'importe quel type cellulaire du système nerveux ou de la rétine, par exemple. Et ces cellules, on les retrouve, entre autres, il y en a même dans l'œil adulte. Et puis, on peut les placer en culture et puis pouvoir générer le type cellulaire qui nous intéresse, par exemple le cône ou le photorécepteur, pour ensuite réimplanter ces cellules dans un patient atteint d'une dégénérescence de ces cellules. Et puis, en espérant maintenant de recouvrir la vue comme ça.
Mm-hmm. En ce qui a trait à votre étude, Michel Caillouette, donc cette percée qu'on dit importante pour lutter contre la cécité, est-ce que vous êtes intéressé plus à restaurer les cônes, les bâtonnets, ou c'était vraiment un intérêt pour ces deux éléments-là?
C'est un intérêt pour les deux. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que c'est un gène qui contrôle la production des cônes. Okay. Alors, présentement, je parlais d'approche de thérapie cellulaire pour régénérer les cellules qui sont mortes dans certaines maladies, mais présentement, les approches pour produire des cônes sont très inefficaces. Alors, on arrive à produire des bâtonnets en laboratoire, mais la production de cônes est beaucoup plus problématique.
Et vous ne savez pas pourquoi, hein?
Pardon?
Et vous ne savez pas pourquoi c'est plus simple pour les bâtonnets que pour les cônes?
On comprend pas très bien pourquoi, et c'est justement ce qui nous a lancé sur ces études, c'est qu'on voulait comprendre la raison de tout ça. Et puis, notre découverte fait en sorte que maintenant, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui permet la production de bâtonnets et de cônes, Et puis, ce qu'on a découvert finalement, c'est qu'on a un gène qui est exprimé dans nos cellules qui permet la production des cônes à un moment très précis à partir de ces cellules souches. Alors, c'est une découverte qui est très fondamentale toujours, mais par contre, ça permet là, d'établir les bases pour la suite.
Ouais, et c'est une découverte qui pourrait permettre de nouveaux traitements.
Ah, évidemment, c'est sûr que ce qu'on espère faire dans le futur, c'est pouvoir manipuler l'expression de ce gène qu'on a découvert et puis augmenter la production de cônes pour, par exemple, faire des greffes chez des patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple.
Est-ce que vous allez vous intéresser, bien sûr, il est peut-être tôt là, pour le dire, mais à certaines maladies de l'œil plus qu'à d'autres. Est-ce que vous pensez que votre étude pourrait convenir plus à certains types de pathologies plus particulièrement?
Oui, c'est certain que pour le moment, on est encore au stade expérimental et puis on est au stade où les études sont toujours en laboratoire dans des modèles animaux. Mais évidemment, parce que l'étude touche surtout les cônes, il semble que notre découverte sera probablement plus applicable à des maladies qui sont causées par la perte de ces cellules photoréceptrices cônes.
Okay.
Alors, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, ou la dystrophie cône-bâtonnet sont deux exemples de maladies là, qui pourraient peut-être bénéficier de cette découverte. Il y a présentement des études cliniques, même pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui sont en cours, pas pour la greffe de cellules photoréceptrices, mais pour d'autres types de cellules qui sont aussi affectées dans cette maladie. Alors, ça prouve qu'il y a effectivement de l'espoir, je crois, pour l'utilisation de thérapie cellulaire dans des conditions comme de cécité.
Mm-hmm.
Et puis, nous, on est très encouragés par tout ça.
Beaucoup d'espoir, mais est-ce qu'on est à même de dire si c'est sécuritaire, si c'est à quel point c'est efficace ou c'est trop tôt pour le dire encore?
Non, voilà. En fait, les études cliniques que je mentionnais précédemment sont en cours pour un type cellulaire en particulier. Jusqu'à présent, ça semble être assez prometteur, c'est-à-dire que c'est assez sécuritaire et il n'y a pas eu de problème majeur jusqu'à présent. Par contre, les études cliniques pour la greffe, par exemple, de cellules photoréceptrices cônes, comme je mentionnais plus tôt, sont beaucoup plus loin. C'est pas en cours présentement chez l'humain encore. Ça est encore à des stades très préliminaires. Mais c'est des étapes qui doivent être franchies et comme vous le disiez, on a besoin de savoir si c'est sécuritaire, si c'est efficace et tout ça va être fait d'abord en laboratoire, en culture cellulaire, ensuite dans des modèles animaux et éventuellement chez l'humain. C'est quelque chose qui prend du temps, mais j'espère pouvoir voir la fin de ça d'ici la fin de ma carrière.
Qui prend du temps, qui génère beaucoup d'espoir. Est-ce que, en terminant, Michel, quand on fait retentir une nouvelle comme ça, une percée scientifique comme ça, ça nous amène des responsabilités parce qu'on se dit, le téléphone va sonner et des gens qui vivent avec des handicaps visuels ou une perte de la vue qui vont vouloir obtenir ce genre de greffe-là et avoir des soins?
Oui, bien évidemment. C'est sûr que éventuellement, pour le moment, on n'en est pas là. J'espère qu'on en arrivera un jour où il y a des patients qui pourront être traités en utilisant les thérapies cellulaires. Mais je devrais mentionner que c'est pas seulement grâce à nos travaux, mais c'est grâce aux travaux de centaines et de centaines, sinon de milliers de chercheurs à travers le monde qui, tous ensemble, vont réussir à faire avancer la science à un point où les connaissances vont être suffisamment avancées pour avoir des applications médicales qui seront utilisées et des traitements qui pourront être utilisés en clinique là, à tous les jours. Alors, c'est certain que ça vient avec une responsabilité et puis on espère en arriver là, mais pour le moment, on n'en est pas là encore.
Oui.
Il faut d'abord faire les étapes plus fondamentales, comme je mentionnais.
Bien, on suivra ça de près ici au Canal M. Michel Caillouette, vous êtes professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.